Chapitre 45, un nouveau personnage. Voyons maintenant ce qui se passait rue d'Ulm numéro 10, quelques jours après les événements que nous venons de raconter. Pour peu que nos lecteurs aient suivi avec quelque attention les scènes multiples de ce drame, et qu'ils soient doués de quelques mémoires, ils se souviendront sans doute que la sorcière de la rue Triprey avait abandonné cette rue pour venir habiter l'appartement découvert, meublé et décoré par Pétrus, rue d'Ulm numéro 10. Ils se rappelleront aussi qu'avec la brocante avaient naturellement déménagé Rose de Noël, Babolin, la Corneille et les 10 ou 12 chiens. La chambre qu'occupait maintenant la vieille bohémienne rue d'Ulm, moitié musée de curiosité, moitié réduit de nécromancie, offrait, ainsi que nous l'avons dit, aux yeux étonnés du visiteur, entre autres objets fantastiques, un clocher qui servait de retraite ou de nid à la corneille et divers tonneaux qui servaient tout simplement de niche aux chiens. Notre intention en écrivant ce livre, que l'on nous pardonne la courte digression où nous nous laissons entraîner, est non seulement, comme on le voit par la matière que nous abordons en ce moment, de faire grimper et descendre avec nous au lecteur tous les étages de la société, depuis le pape Grégoire XVI, auquel nous allons avoir affaire tout à l'heure, jusqu'au ravageur de ruisseaux croquant-jambes, et depuis le roi Charles X jusqu'au tueur de chats. Mais encore de faire de temps en temps des excursions dans des mondes inférieurs, on a réservé aux animaux. C'est ainsi que nous avons déjà pu apprécier l'intelligence de la corneille Farès et l'instinct du chien Brésil, à ce point que si l'une nous est restée à peu près indifférente, vu la mince part qu'elle a pris aux événements que nous avons racontés, l'autre, au contraire, nous en sommes sûrs, sous son double nom de Brésil et de Roland, a conquis toutes les sympathies du lecteur. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, ayant fait un premier pas parmi les humbles de la création, parmi nos frères inférieurs, comme ils appellent Michelet, nous en fassions un second en élargissant d'un nouveau tour de compas le cercle déjà immense dans lequel nous agissons. Que voulez-vous, cher lecteur? Il m'a été donné, pour le désespoir des directeurs de théâtre et des libraires, et peut-être aussi bien pour votre ennui à vous, cette mission de faire des drames en 15 tableaux et des romans en 10 ou 12 volumes. Ce n'est point ma faute, c'est celle de mon tempérament, dont mon imagination n'est que la fille. Nous voilà donc à cette heure au milieu des chiens de la brocante, et c'est avec un de ces animaux que nous vous demandons la permission de vous faire connaissance. Un des chiens les mieux aimés de notre sorcière, les sorcières ont des goûts bizarres. Sont-elles sorcières parce qu'elles sont ses goûts? Ont-elles ses goûts parce qu'elles sont sorcières? Nous n'en savons rien, et laissons à plus fort que nous à décider cette importante question. Un des chiens, disons-nous, les mieux aimés de notre sorcière, était un petit caniche noir de la plus vilaine espèce. Nous jugeons cela, bien entendu, au point de vue orgueilleux de l'homme. Au point de vue de la nature, il n'y a pas de vilaine espèce. Le fait est que, pour un homme, nous ne savons pas ce qu'il en était pour la nature, le fait est que ce chien était d'une laideur vraiment extraordinaire. Petit, trapu, sale au physique, hargneux, grognon, prétentieux au moral, il résumait à lui seul tous les vices d'un vieux garçon, et pour cela, sans doute, il était généralement détesté de ses camarades. De cette répulsion universelle, il était résulté ceci, c'est que la brocante, sa maîtresse, s'était, par un entêtement tout féminin dès l'abord, attachée à lui avec une tendresse maternelle, et depuis, cette affection s'était peu à peu accrue en raison inverse de l'inimitié que lui portaient et que lui témoignaient publiquement ses compagnons. C'est ainsi qu'elle en arriva à toutes sortes d'attentions pour lui, jusqu'à le servir à part et dans un cabinet séparé, pour ne pas le voir mourir d'inanition, tant les autres chiens lui disaient cent choses désobligeantes et lui faisaient souffrir 1000 gênes aux heures solennelles des repas. Vous savez ce que peut l'orgueil chez les hommes, n'est-ce pas, cher lecteur? Eh bien, voyez ce qu'il peut en être chez les animaux. Ce chien noir, ce caniche crotté, ce babila sans fin, qui était, toujours à notre point de vue, à nous, d'une laideur outrageante, se voyant câliné, caressé, choyé, fêté, servi à part, finit par s'imaginer qu'il était le plus joli, le plus coquet, le plus spirituel, le plus aimable, le plus séduisant des chiens. Et une fois cette pensée entrée dans son esprit, il se mit tout naturellement, comme eût fait un homme en pareille position, à railler ses semblables, à les agacer sans pudeur, tirant la queue de l'un, mordant l'oreille de l'autre, narguant chacun, sûr qu'il était de l'impunité, se rengorgeant, portant haut la tête, faisant la roue, se donnant enfin des airs de telle importance que tous ses camarades souriaient de dédain, haussaient les épaules de pitié, disant entre eux « Quelle prétention !» Je crois, cher lecteur, que vous me faites l'honneur de m'adresser une observation. Mais oui, monsieur le romancier, interprétez, traduisez, torturez les paroles et les gestes des hommes, mais en vérité, c'est trop fort de chercher à nous faire croire que les chiens parlent, haussent les épaules, sourient. Ah, quant à sourire, permettez-moi de vous dire, cher lecteur, que j'ai une chienne de mes amis, une petite levrette blanche appartenant à la plus haute aristocratie des lévriers, qui sourit toutes les fois qu'elle me voit, me montrant ses fines dents blanches, de telle façon que je croirais qu'elle se fâche si le reste de son corps ne donnait point toutes sortes de simulacres de joie. On la nomme Gisèle. Pour moi, les chiens sourient donc, puisque ma chère Gisèle me sourit chaque fois qu'elle me voit. Quant à hausser les épaules, je ne soutiens pas que les chiens haussent les épaules exactement de la même manière que l'homme. Mon expression est même impropre. Ce n'est pas hausser les épaules que j'aurais dû dire, c'est secouer les épaules. Voyons, n'avez-vous pas remarqué maintes et maintes fois que le chien qui vient de faire connaissance avec un autre, et vous savez de quelle naïve façon les chiens font connaissance, n'avez-vous pas remarqué que le chien, trompé dans son espoir, trouvant comme le capitaine Pamphile, dont voici tantôt 25 ans j'ai écrit la pittoresque histoire, trouvant, dis-je, une négresse mâle où il comptait trouver une négresse femelle, secoue dédaigneusement les épaules et s'en va. Cela est incontestable. Aussi, cher lecteur, ne le contesterez-vous pas. Maintenant, arrivons-en à la parole. Les chiens ne parlent pas. Hommes orgueilleux qui croyez que vous avez seul reçu de la Providence la faculté de vous communiquer vos pensées, parce que vous parlez anglais, français, chinois, espagnol, allemand, et que vous ne parlez pas chien, vous dites tranquillement, les chiens ne parlent pas. Erreur ! Les chiens parlent leur langue comme vous parlez la vôtre. Il y a bien plus, c'est que vous n'entendez pas ce qu'ils vous disent, hommes orgueilleux, et que, humbles, et ne s'en faisant pas à croire pour cela, ils entendent ce que vous leur dites. Demandez au chasseur si son chien ne parle pas, quand il l'a entendu rêver, chasser un lièvre, se prendre de querelle, se battre en rêve. Qui veille donc ainsi dans ce chien qui dort? N'est-ce pas une âme moins perfectionnée, mais à coup sûr plus naïve que la nôtre? Le chien ne parle pas. Allez donc dire cela à votre enfant de 3 ans qui se roule sur la pelouse avec ce gros Terre-Neuve de 3 mois. Le jeune enfant et le jeune animal jouent comme deux frères, écoutant les sons inarticulés qu'ils échangent au milieu de leurs jeux et de leurs caresses. Et mon Dieu, l'animal essaie tout simplement de parler la langue de l'enfant et l'enfant la langue de l'animal. À coup sûr, quelle que soit la langue qu'ils parlent, ils s'entendent, et peut-être se disent-ils, dans cette langue incomprise, plus de vérité sur Dieu et sur la nature que n'en ont jamais dit Platon et Bossuet. Les chiens parlent donc, cela ne fait aucun doute à nos yeux, et ils ont ce grand avantage sur nous, c'est qu'en parlant chien, ils entendent le français, l'allemand, l'espagnol, le chinois, l'italien, tandis que nous, en parlant soit l'italien, soit le chinois, soit l'espagnol, soit l'allemand, soit le français, nous ne comprenons pas le chien. Revenons aux malheureuses bêtes de la brocante et à la situation qui leur était faite par les prétentions ridicules de Babylas. Ce témoignage de mépris qu'en toute occasion Babylas recevait de ses camarades ne rendait pas à ceux-ci la vie meilleure, il s'en fallait du tout au tout. La brocante, en sa qualité de sorcière, parlait toutes les langues. La brocante, donc, au moindre gros mot qu'elle entendait, intervenait, selon la gravité du mot, soit avec son martinet, soit avec son manche à balai. Le martinet, c'était la baguette de la fée, le manche à balai, c'était le trident de Neptune. La brocante, à coup sûr, ne savait pas ce que voulait dire « quos ego », mais les chiens traduisaient à l'instant même cette menace « tas de canailles ». Et chacun, tout tremblant, rentrait dans sa niche, et après un instant seulement se hasardait à risquer le bout de son nez ou le coin de son œil par l'ouverture du tonneau. Il est vrai que le lévrier geignait, que le caniche grognait, que le bouledogue ognait, mais le bruit d'un pied impatient frappant le parquet, et ces mots terribles prononcés « cet terraton » à la fin, suffisaient pour imposer à toute l'assemblée canine le silence le plus absolu. Et tous se taisaient, renfoncés dans leurs tonneaux respectifs, tandis que l'ignoble Babylas se carrait au milieu de la chambre et poussait parfois l'imprudence jusqu'à passer la visite des tonneaux pour voir si chaque rebelle était bien dans sa prison. Ces manières de Babylas, qui de jour en jour devenaient plus provocantes, avaient fini, comme on le comprend bien, par être insupportables à toute la République canine, qui deux ou trois fois résolut de profiter de l'absence de la brocante pour donner une bonne leçon à maître Babylas. Mais toujours, par un de ces bonheurs qui n'arrivent qu'aux tyrans et aux fats, juste au moment où la conspiration allait éclater, la brocante, comme l'antique dieu de la machine, apparaissait tout à coup, son balai ou son martinet à la main, et reconduisait jusqu'à leur niche les infortunés conspirateurs. Que faire en cette triste conjoncture et comment se soustraire au pouvoir domestique quand le pouvoir despotique est armé d'un balai et d'un martinet? La bande réfléchit. Un lévrier proposa d'émigrer, de quitter le sol natal, de fuir la patrie, de chercher enfin une terre plus hospitalière. Un bouledogue offrit de prendre tout sous sa responsabilité et d'étrangler Babylas, mais il faut dire ce canicide répugna à toute la troupe. « Évitons l'effusion de sang, dit un barbé connu pour la douceur de ses mœurs. » Et il fut appuyé par un vieil épagneul qui était toujours de son avis et qui était tellement lié avec lui que le plus souvent une même niche leur servait pour tous les deux. Enfin, tous les moyens violents déplurent à ces honnêtes chiens et l'on résolut de n'ourdir contre Babylas d'autres conspirations que celles du mépris. On le mit à l'index, comme on dit dans les collèges de Rome, en quarantaine, comme on dit dans les collèges français. On le laissa à l'écart, on ne lui parla plus. On fit même mine de ne plus le voir quand on passait près de lui. Enfin, comme il est dit poétiquement dans l'opéra de la favorite, il resta seul avec son déshonneur. Que fit Babylas ? Au lieu de se repentir, lui qu'aveuglait l'affection irraisonnée de la brocante, au lieu de profiter de l'avertissement, il s'ingénia à mystifier de plus belle ses camarades. Il leur lança de loin 1000 abois injurieux pendant le jour, il troubla impitoyablement leur sommeil pendant la nuit. En un mot, sûr de l'appui de sa maîtresse, il leur rendit la vie intolérable. Ainsi faisait-il chaud et la brocante ouvrait-elle la fenêtre pour donner de l'air à la société, aussitôt Babylas se jappait plaintivement et grelottait de tous ses membres comme s'il eût fait 25 degrés de froid. La fenêtre était-elle fermée, au contraire, ou pleuvait-il, neigeait-il, faisait-il 25 degrés de froid? Babylas se plaignait de la chaleur, le poil l'incommodait, il levait la patte devant la porte et, autant qu'il était en son pouvoir, tentait d'éteindre le feu. À ces signes, la brocante reconnaissait qu'il faisait trop chaud et, craignant une congestion cérébrale pour son favori, elle éteignait le poêle et ouvrait la fenêtre, quitte à voir les autres chiens grelotter à leur tour sous une température égale à celle de Moscou. Bref, ce misérable Babylas était devenu le démon du foyer. Il n'était utile à personne, était désagréable à chacun, désobligeant pour tout le monde, et cependant, explique la chose qui pourra, malgré cette réunion de vices, peut-être à cause d'eux, il était adoré de la brocante. Bien que le printemps de l'année 1827 ne fût pas un printemps plus chaud que celui de l'année 1857, Babylas, soit par méchanceté, soit par besoin réel, soit par tout autre motif, avait 20 fois fait ouvrir la fenêtre. Or, en mettant le nez à cette fenêtre, C'était, on se le rappelle, une fenêtre du rez-de-chaussée. Babylas avait aperçu de loin une jeune chienne aux yeux noirs, aux poils d'un blond fauve, aux dents blanches comme des perles, aux lèvres roses comme du corail. On sait qu'il y a deux sortes de corail, le corail rouge et le corail rose, et que des deux, le corail rose est le plus précieux. L'élégance de la démarche de cette jeune bête, dont la canine marquait encore la fleur de lys, le feu de ses yeux, la souplesse de sa taille, la petitesse de sa patte, toute la grâce de sa personne, enfin, avait fait tressaillir Babylas, qui s'était écrié dans son langage « Oh, la charmante bête !» À ce cri, comme lorsqu'un fumeur placé à une fenêtre s'exclame « Oh, la charmante femme !» Tous les hommes du club, joueurs de whist, lecteurs de journaux, preneurs de café, mangeurs de glace, siroteurs de petits verres, accourent à l'envie. À ce cri, disons-nous, tous les chiens, assis, debout, couchés dans leur niche, se léchant les pattes ou autre chose, étaient accourus pour jouir de cette vue avec Babylas. Mais celui-ci s'était retourné, avait montré les dents, avait grogné, et tous les chiens, y compris le bulldog et le Terre-Neuve, qui eussent exterminé Babylas d'un coup de dent, étaient retournés à leurs occupations. Satisfait de cette obéissance de ses compagnons, commandés, il faut le dire, par leur instinct qui leur indiquait que la brocante était dans la chambre voisine, Babylas reporta son regard vers la rue. La chienne, obligée de subir ce regard de feu, baissa timidement les yeux et passa sans détourner la tête. « Honnête et belle !» s'écria dans sa langue le caniche enthousiasmé. « Sage et belle !» s'écrie Hamlet en voyant Ophélie, ce qui prouve qu'en circonstances pareilles, pareille impression se produit sur l'homme et sur l'animal, sur le prince et sur le chien. Et il se pencha hors de la fenêtre au point que ses compagnons purent espérer un instant que, calculant mal, dans son enthousiasme les lois de la pondération, Babylas verrait sa tête emporter son derrière et se briserait le crâne sur le pavé. Il n'en fut rien. Babylas suivit des yeux la charmante bête jusqu'au coin de la rue de la vieille Estrapade, où elle disparut comme une ombre sans même lui dire qu'elle reviendrait. « Quelle belle !» aboya Babylas, le cœur en proie aux délices ineffables d'une passion naissante, d'un amour en fleurs. À partir de ce moment, au lieu de gémir de la solitude impitoyable à laquelle ses frères outragés l'avaient condamné, Babylas s'applaudit intérieurement des heures de rêverie que cette proscription lui laissait. Comme Diogène, en rentrant dans son tonneau, il jeta dédaigneusement son mépris sur le reste de la création. Et si nous, qui, en notre qualité de romanciers, comprenons toutes les langues, même celles des bêtes, nous ne rapportons pas ses propres paroles, c'est parce que nous craindrions qu'on se méprise sur nos intentions et que, dans la boutade de Babylas, on ne vit une satire pleine d'amertume contre la société. Nous n'analyserons pas davantage les émotions de toute nature qui remplirent le cœur de notre héros depuis l'heure où il avait reçu la commotion électrique jusqu'à l'heure du coucher. Nous dirons simplement un mot de la nuit. Ce fut à la fois pour Babylas une nuit de tortures inconnues et de délices inouïes. Tous les diablotins qui trament la toile diaprée des songes dansèrent leur sarabande fantastique autour du chevet du pauvre caniche. Il vit passer, comme dans les vers de la lanterne magique qu'il avait montré dans sa jeunesse, en société avec un aveugle, des ombres de tous les chiens qu'il avait aimés, de toutes les Hélènes et de toutes les Stratonis à quatre pattes qui avaient produit des passions insensées. Enfin, il se tourna et se retourna tant sur son matelas de crin, les autres n'avaient que de la paille, que la brocante, réveillée en sursaut, le crut hydrophobe ou épileptique et lui adressa de son lit les paroles les plus tendres pour le consoler. L'aurore parut heureusement vers 4 heures du matin. Si l'on eût encore été aux longues et sombres nuits d'hiver, Babylas, au retour du soleil, était infailliblement mort de consomption.